L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Un mot sans l'autre, un mot qui en appelle d'autres. C'est la première fois que je vis cette expérience, mais je suis ravie de la vivre avec Lily Frick, puisque même rencontrer Lily Frick est une expérience. Lily, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour.
On vient de passer une heure, enfin 50 minutes, à parler d'abord de vous, et puis après d'un mot sans l'autre. Et on a bien compris au bout de... Avec Philippe, oui, mais allez-y, dites-le. Dites-le, Lily, avec Philippe Bourret, bien sûr. Lily Frick, avec trois dialogues avec Philippe Bourret.
Et, c'est important.
Mais bien
c'est
sûr.
L'interlocuteur, et si cette personne-là, ce mec-là, ce poète-là, ce psychanalyste-là, n'avait pas été là.
Là
n'avait pas cette oreille, je ne serais pas derrière ce micro.
En plus, je me suis permis de m'approprier ces mots.
En plus. et moi, c'est avec plaisir, de toute façon, que je les réentends. Mais c'est, pour moi, c'est tellement important de... justement, j'ai une espèce de respect infini pour la ressource humaine. Ne pas falsifier d'où ça vient. Et je n'aurais pas parlé. J'étais partie pour ne pas parler, pour ne pas dire quelque chose d'essentiel, parce que je me disais, peu importe. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point ce qui a fait, enfin, la décision que j'ai prise, elle est toute simple, c'est parce que, en fait, ça ne concerne pas que moi. Je ne suis pas toute seule, je suis certainement nombreuse à avoir cet autre accès au langage et surtout à l'écriture. Et c'était très important pour moi de simplement dire, voilà, moi, les mots, c'est autrement, je l'ai fait comme ça, mais je l'ai fait comme ça en obéissant aux conditions dites officielles. C'est-à-dire, il fallait que j'aie écrit des livres pour être là maintenant face à vous et vous parler, vous dire que oui, voilà.
Dans la première partie d'émission, Lily, on a parlé d'abord de vous, de votre parcours pour en arriver à un mot sans l'autre. Et puis... Plus spécifiquement sur un mot sans l'autre, on a abordé tout le début, voilà, votre rapport avec l'oralité, l'écrit. On a parlé aussi des gens qui avaient croisé votre route littéraire, hein, notamment de Valérie Valère, de Duras, de la voix de Duras, du rythme de la voix de Duras. Hein,
tout très simplement du silence entre les mots de Duras qui fait partie de l'écriture, pas de Duras, de l'écriture. Duras fait entendre ça. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas entendu ça. Qu'on n'en parle pas plus de ça, de l'oralité essentielle de l'écriture de Duras. L'oralité fait partie de l'écriture. Et Duras fait entendre écrire. J'ai entendu écrire. J'ai entendu le silence entre les mots. Ça veut dire aussi qu'il y a... Écrire, c'est un mot et peut-être pas un autre. Elle ne sait pas. Je ne sais pas. Je prends Duras parce qu'elle est connue. Il faut bien que je m'appuie sur quelqu'un pour dire un truc aussi impossible à dire.
Et puis je pense que c'est quelque chose qu'il a aussi bouffé.
Je ne sais pas.
Je pense que dans l'autodestruction qu'elle a eue à la fin de sa vie, il y a ça, je pense.
Moi, de toute façon, c'est comme ça que je l'aperçois, parce que je sais ce que ça veut dire, cette écriture-là, à cet endroit-là d'écrire, c'est-à-dire sans filet, c'est-à-dire sans grammaire, c'est-à-dire que le mot est seul, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher chez les autres, on ne fait pas du copier-coller, on fait juste quelque chose d'impossible à faire.
Ce qui donne d'ailleurs un écrit... Là, extrêmement fluide. Je sais que moi, j'ai lu Duras tard, parce que je croyais que c'était difficile, Duras, alors qu'elle a une écriture extrêmement fluide, extrêmement simple, je dirais même extrêmement essentielle. C'est-à-dire que Duras, c'est quelqu'un qui ne s'encombre pas de l'inutile dans l'écriture. Hein. Il y a vraiment les mots utiles, point, barre. Et en définitive, c'est très simple à lire.
Parce qu'il ne s'agit pas d'interrompre ce qui a lieu. Mm-hmm. Et l'écriture, quand ce n'est pas sur le papier... C'est quelque chose qui a lieu.
On a fini la première partie de l'entretien en parlant de l'idée. Alors, je ne sais pas comment... Parce que ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée. C'est quelque chose que vous ressentez profondément quand vous dites « j'écris à voix haute ». On pourrait prendre un petit peu de temps pour parler un peu plus longuement de ce « j'écris à voix haute ».
Oui, justement, Philippe Bourret m'a posé exactement la même question. Parce que justement, il y a beaucoup de j'ai beaucoup entendu depuis le numérique et la sortie en scène des mots de personnes qui parlent de cette qui ont l'air de parler de ça, voilà. Mais pour faire le plus simplement comprendre, c'est que écrire pour moi, c'est avec la voix. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, sans papier, sans stylo, etc. Je prononce depuis tout le temps, depuis toujours, je prononce.
Avec un micro, Lily Frick ?
Non, je prononce, vive, je respire, je prononce, c'est-à-dire que le mot est là. Et même quand je dis je prononce, c'est pas du son, c'est quelque chose qui s'articule d'être.
Donc c'est pas de mémoire ?
Pas de mémoire, évidemment. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est d'ailleurs là, ce qui se passe là, ça se passe où ? Ça se passe sans mémoire, ça se passe dans le vide, ça se passe justement dans le gouffre de parler, ça se passe dans cette espèce de verticalité qui fait que qu'est-ce qui va se passer ? Je prends le risque de quelque chose qui doit venir à travers moi, par moi. J'ai fait le boulot d'écrire pour moi. C'est d'être justement dans ce risque-là, de prendre les mots quand ils décident de venir et pas de les administrer, pas justement de les transformer en données, pas justement d'en faire une matière pour artistes plasticiens.
C'est pas difficile à faire comprendre ça ?
Ben, c'est ce que je découvre. Et c'est une grande... Et j'aurais presque envie de chialer. Parce que, bon, sans rentrer dans les détails, c'est que ce que ça veut dire, enfin, tout ça, c'est dans le livre et j'ai pas forcément envie de venir et de revenir. Et si j'en arrive aujourd'hui à parler de ça, c'est parce que je pense que c'est important d'en parler, parce qu'il y a un enjeu qui ne concerne pas que moi, qui est un enjeu civilisationnel à travers le numérique. Et il est important pour moi que l'on se rende compte, en tout cas moi, c'est vital. Je ne peux pas continuer à ne pas parler, à apprendre à ne pas parler, ce que je fais dans tous les cas de figure.
Mais là, par exemple, on va prendre un texte, c'est chouette d'avoir plus de temps, un texte que je crois, Philippe, extrait de Carnet sans bord.
Oui. Hein,
vous voulez le lire, Lily ? Parce que ça serait peut-être plus beau que ce soit vous qui le lisiez.
Je ne sais pas, c'est lequel. La bête, elle fait attention, la bête. Elle se retient. Elle ne donne aucun signe. Elle ne laisse aucune trace, la bête. Elle ne tremble pas, elle ne saigne pas, elle ne hurle pas. Elle est blessée, nature blessée, mystère blessé. Elle ne peut plus rester au milieu en pâture, en terrasse. Elle s'en va. Elle n'a pas peur, elle n'a pas le choix. Elle n'est plus ni saine, ni sauve. Elle est abîmée. C'est ça qui s'éloigne. Abîmée. C'est ça. Elle veut plus laisser son silence au sol. C'est ça qui l'emporte dans la forêt. Elle veut parler. Elle a besoin, la bête. Elle veut parler. Elle veut parler. Et les hommes ne parlent pas. Postidazzi, 6h38.
Merci, c'est un beau cadeau. Et en plus, en vous écoutant dire un de vos textes, on comprend tout ce qu'on dit depuis une heure, c'est-à-dire votre travail sur le souffle, sur le temps, sur les silences. Il n'y a pas mieux que de vous écouter dire un de vos textes.
Merci.
Un texte comme ça, par exemple, quand on parle de lire à voix haute, vous l'avez écrit plusieurs fois dans votre tête, réécrit avant... Oui.
Je parle justement de ça à travers les deux premiers textes que j'ai écrits de ma vie. Je les ai écrits à la verticale, à bout de souffle, vraiment. J'étais dans des situations limites, parce qu'on n'écrit pas comme ça, comme ça. Le premier texte que j'ai écrit s'appelle Bleu Capital. Juste très, très important, d'ailleurs, oui. Parce que voilà. Dans ce texte-là, c'est une critique sauvage, justement, du rapport analytique à la souffrance. C'est pour ça que j'avais pas forcément envie de parler à un psychanalyste. Parce que je les ai rencontrés et j'ai pas envie de leur parler. Et j'avais, à ce moment-là, besoin de formuler quelque chose que j'ai formulé dans Bleu Capital, ça fait 3 minutes 36. Et je dis mon rapport à la souffrance, et je dis ce que c'est que la souffrance. Et la souffrance, c'est une aubaine, cette souffrance-là. C'est pas de la merde, c'est pas que de la pathologie. Ça fait partie de l'existence, c'est une des données de la condition humaine avec laquelle j'ai fait des choses vraiment... avec laquelle on fait des choses qui sont pas dégueulasses.
Mais je crois qu'on est dans un monde aussi où on la refuse de plus en plus.
Peut-être, mais en tout cas, moi, ce qui est important pour moi, c'est de redonner à la souffrance sa valeur et de pas lui cracher dessus en permanence. Je suis pas en train de faire la pub pour la souffrance. Si certains écrivent fastoche, les doigts dans le nez, avec tant mieux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de laisser les gens qui souffrent souffrir, sans jugement. Foutez la paix aux gens qui souffrent, ou aux gens qui sont moches, etc., etc., aux gens qui sont différents. Foutez-leur la paix. Regardez-vous dans la glace et laissez les autres briser cette glace.
Pardon Lily, excusez-moi.
Non, voilà, c'est tout.
On va rentrer dans le deuxième dialogue qui s'appelle donc « Un mot sans l'autre » et j'aimerais, comme la première fois, l'ouvrir par les mots de Philippe Bourret.
Oui.
Écoutez Lily, c'est la lire. Oui, lire la voix qui écrit de celle qui dit. C'est plonger de très haut, dos au vide, au risque de laisser sa peau accrochée à la gorge. C'est quitter la scène du crime juste avant le crime. Le geste vocal prépare sa frappe. Alors, mieux vaut ouvrir grand l'enveloppe creuse de son corps et accueillir pour la première et la dernière fois peut-être le souffle qui fait vaciller les certitudes. Mourir pour un texte est l'occasion ou jamais de vivre. Être touché, peut-être, par l'ultime lettre bleue comme trace effacée de celle qui dit « Je suis voyeur, je ne suis pas lecteur ». Et d'ailleurs, juste après, viennent « Oui, je suis voyeur, je ne suis pas lecteur, pas Hannibal lecteur, pas besoin de ça. » Donc un texte de vous. Le deuxième ton, je trouve qu'il y a un ton assez différent dans le deuxième dialogue, d'ailleurs avec plus de textes écrits, alors sous forme poétique, on s'entend, hein, Lily, voilà, c'est moins sous forme de dialogue, mais plus sous forme de réponse.
Ça dépend des moments.
Voilà,
aussi.
Voilà, il y a des moments différents.
De ce qui est dit.
Là, par exemple, tout de suite, on continue après. Lily, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Même quand on attend, on est surpris, on attend. Et quand c'est là, quand elle est là, l'heure, on est quand même surpris. Voilà, c'est des textes aussi comme ça où vous répondez. Dans ce deuxième dialogue, il y a un moment qui m'a interpellée. Parce que vous êtes à la radio ici, Lily.
Oui.
C'est quand vous parlez de nettoyer les sons.
Oui, c'est vrai.
Vous pouvez nous en dire plus, justement, sur ce que c'est que nettoyer les sons.
Avec plaisir. J'ai été amenée, justement, dans mon parcours, à enregistrer, à être face à des techniciens du son et à être en difficulté parce que ma voix... Il y avait toujours un parasite, il y avait toujours quelque chose qui restait, qui, en fin de compte, on appelle que c'est sale, en fait. Et il faut nettoyer jusqu'à ce que ce soit bien clair, bien limpide et que ça arrive avec cette clarté dont l'oreille aurait besoin. Et donc, ma voix est quelque chose qui demande à être bien nettoyée. Et je parle avec des bonnettes. Voilà.
Alors que moi, c'est ce que j'aime, hein, aussi, toutes les imperfections, enfin les imperfections, ouais. Voilà, on tombe là-dedans, mais toutes les différences dans la voix. Et dans la même page aussi, vous parlez de l'interlocuteur. Et c'est vrai que vous en parlez, un interlocuteur aussi, c'est inédit. Un interlocuteur, c'est pas, hein, on continue dans le... C'est pas juste quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'important.
Ouais.
Et c'est vrai que dans le processus créatif, souvent, je dirais pas que les... C'est pas quelque chose de fréquent chez les écrivains, chez les auteurs, chez les poètes, de dire que l'interlocuteur, c'est pas juste quelqu'un d'autre. Souvent, on est auto-centré. Voilà. Je trouve que c'est un...
Mais souvent, on est dans la langue. Quand ouais. on est dans la langue, l'interlocuteur, c'est une fonction linguistique. Et donc, ça n'ouvre rien. Là, le dialogue que j'ai avec Philippe Bourret est un dialogue réel, avec deux personnes qui sont en situation réelle, au bord de. Et donc, cet interlocuteur fait quelque chose qui est de l'ordre de la création. C'est-à-dire, c'est comme un accouchement, il ouvre, peut-être plus grand qu'un sexe, peut-être plus grand que les yeux, peut-être plus grand que le corps. Il ouvre quelque chose. Parce qu'il sait que quelqu'un va tomber. Et ça, pour moi, que jamais, et que cette personne va tomber parce qu'elle peut tomber. Parce qu'il y a quelqu'un. Voyez ? D'habitude, on tombe et il n'y a personne. Mmh. Parfois, il y a quelqu'un. Et donc, on va un peu plus loin. On tombe mieux. On tombe plus profond. On tombe plus exact.
Quand je vous ai dit en tout début d'entretien, que dans la première partie de l'émission, que chaque page ouvrait des grandes dimensions de réflexion, voilà, c'est-à-dire que sur une seule page, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut trouver autour de l'interlocuteur, tout ce qu'on met dans ce mot-là. Par exemple, il y a un peu plus loin, toujours dans ce deuxième dialogue, vous exprimez autour du mot, et notamment avec un texte, un mot, un seul mot nous fait sortir du désespoir, le plus profond où nous y replonge. Un seul mot, c'est de l'amour, et l'amour, ça n'a rien de rose bonbon, c'est pas du 36 fillettes, c'est pas que dans les romans. Dans les camps de concentration, c'est avec ça qu'on l'en tient. Et d'ailleurs, c'est avec ces quelques mots qu'on introduit Charlotte Delbault, qui est aussi quelqu'un d'important dans le livre. Le mot, bah, dites-nous en plus sur le mot. C'est vous que je voudrais entendre sur le mot, sur tout ce que vous mettez dans le mot, sur l'utilité ou des fois l'inutilité du mot. Parce qu'en plus, excusez-moi, mais le mot va nous emmener après sur le livre. Parce que c'est juste après le mot, il y a justement le livre.
Le mot, il n'est jamais inutile, parce qu'il n'y a que lui à cet endroit où il n'y a personne. Le mot, c'est quelque chose qui est là, quand il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, ce n'est pas un mot, c'est autre chose. C'est dans le dictionnaire. Mais quand il s'agit de mots, quand pour Charlotte, Delbault, justement, quand elle parle de mots, on parle
en
de ça.
En deux mots, donc Charlotte Delbault, elle a été connue parce qu'il y a, comment, je ne sais plus quel auteur qui a écrit un bouquin sur Charlotte Delbault il n'y a pas longtemps, si c'est Falkinos. Et donc, on a connu la personnalité de cette femme qui était, non pas la secrétaire, hein, mais l'assistante de Louis Jouvet.
Oui.
Et qui a été en camp de concentration, qui en est revenu et qui a écrit beaucoup dessus. Mmh. Et avec des mots et une sensibilité extrêmement personnelle et forte. Voilà, je voulais juste, pour nos
bien
auditeurs
sûr.
Qui ne connaissaient pas Charlotte Delbault,
bien
la remettre
sûr,
un peu
bien
dans
sûr,
le...
Bien sûr, bien sûr. Mais pour faire un mot, il faut plus que du son, plus que du sens. Faut risquer de la peau, de l'être. Autrement, c'est pas un mot. Et un mot... dans le dictionnaire, ça pèse rien. Ça n'engage personne quand c'est dans la langue. Quand c'est dans la langue, un mot c'est vide. Il n'y a personne dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui crie. Il y a juste... Voilà, c'est dans la langue. Et la langue n'engage personne. Ça devient un mot quand il y a quelqu'un dedans. Ça pèse lourd dans le vide. Quand c'est pas dans le dictionnaire, c'est dans le vide, le mot. Et à ce moment-là, ça pèse des tonnes. Ça pèse quelqu'un. Ça pèse la vie de quelqu'un. C'est de l'amour, c'est-à-dire ça peut sauver. Mais il faut prendre ce risque d'y aller entier dans le mot, c'est-à-dire pas simplement avec le son et avec le sens, justement, pas simplement dans la langue. Il faut y engager autre chose. Autrement, on s'amuse.
D'ailleurs, pour finir sur le mot, vous finalisez, clôturez ce que vous dites sur le mot par cette phrase. Pour moi, il y a une distance irrattrapable entre les mots et les livres. Si vous saviez l'angoisse que c'est pour moi le livre, alors je vous posais la même question que Philippe. Hein, c'est lui qui vous la pose. Hein. Qu'est-ce qui vous angoisse dans le livre, Lily ?
Parce que c'est donné comme le lieu de départ et d'arrivée des mots. Et que ça fait partie de la civilisation, c'est comme ça. C'est ça que j'ai découvert justement en publiant pour la première fois mon livre. C'est que écrivain, ah bah oui, écrivain c'est sur du papier. Écrivain c'est noir sur blanc. Et pas n'importe quel noir et pas n'importe quel blanc. Et moi j'ai fait ça, c'est pas ce que j'ai vécu. J'ai rien, pratiquement pas lu dans ma vie, quelquefois. Quelques livres, toujours à certains moments. Bien sûr, j'ai lu après, mais aucun livre. Et surtout, je ne reconnaissais pas sur le papier. Pendant des années, je n'ai pas reconnu sur le papier les mots quand je les mettais. Il m'a fallu un temps fou. Et c'est pour ça que j'ai pu vraiment, pendant tous ces instants fous, me rendre compte de ce que c'était le papier. C'est-à-dire, ce n'est pas un support neutre, c'est une configuration de l'intérieur. C'est véritablement quelque chose, ce n'est pas qu'un support, c'est un choix. C'est un choix pour les mots, pour l'écriture. Et quand il n'y a pas cette chose-là, ou l'écran c'est pareil, c'est-à-dire qu'écrire c'est arrêter un mot sur un support, et c'est l'ensemble de l'arrêt de tous ces mots. En fait c'est une matière, ça transforme les mots en données, ça les fait entrer dans le miroir. Mmh. C'est plus du tout pareil. Ce n'est plus dans le mouvement de l'écriture ou de la parole. C'est autre chose. On est vraiment dans le mental, forcément.
On va marquer notre première pause musicale et on va retourner avec Moondog.
Oui, mais hein? Moondog que la pub a récupéré, etc. Et juste parce que ensuite, après. On lui a accordé tout. Vous allez certainement reconnaître ce générique.
On écoute.
C'est un clin d'œil de Moondog.
Voilà. Dans Aéropage et toujours sur les ondes de Radio FM+, et en compagnie de Lily Frick, dont on a choisi de faire une émission en deux parties, parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce court livre de 100 pages qui endure, qui en fait mille. Lily, on va parler de la troisième partie du dialogue, du troisième dialogue, et qui s'appelle « Le poète n'est pas un milliardaire comme les autres ».
Et un peu d'humour.
Voilà, un petit peu.
Le texte, j'ai perdu ce que vous vouliez que je lise.
Ce dialogue commence par un texte de vous qui est écrit en tout petit quand même. Quand je parle, je me sens immédiatement dans la position d'une terroriste. Ouais. J'ai le sentiment de toujours commettre une faute quand je parle. Il y a quelque chose dans l'homme qui interdit l'homme, avec un grand H, qui empêche l'homme.
En fait, ce sont des phrases, je pense que ce sont des phrases qui sont mises bout à bout. D'accord. Et qui vont être prises, je crois.
Mais le texte oui. donne une... Et alors, la deuxième phrase me parle, parce qu'il y a une citation de Camus
voilà,
qui est assez...
c'est juste un raccourci du truc.
Il y a un texte de Camus, une phrase de Camus qui m'a toujours beaucoup parlé, alors, parce que la deuxième phrase, c'est « j'ai le sentiment de toujours commettre une faute quand je parle oui. ». Et Camus disait « quand je suis avec des intellectuels, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose à me reprocher ».
Exactement. Il y a une faute. Ce sentiment de la faute, il est très difficile à évacuer dans certains, je dirais, à évacuer dans certains milieux. Moi, c'est véritablement à ça que je sens que je suis dans certains endroits.
Et c'est vraiment donc cette Lily poseuse de bombes. Hein, quand je parle, je me sens immédiatement dans la position du terroriste, de l'étranger qui fout des bombes. Si je dis je ne suis pas lecteur, je suis en train d'accuser 99% des personnes qui souhaitent que leurs enfants lisent. Or, je ne dis pas que les enfants ne doivent pas lire. Je dis quelque chose de pire et de mieux que ça. Je dis que...
Oui.
Qu'il n'y a pas que la position de lecteur pour les mots. Oui. Et c'est vrai que le troisième dialogue est pour moi le plus militant. C'est pas un terme qui va vous plaire, mais le plus engagé, je trouve, le plus.
Il y a une dimension peut-être politique.
Oui, il y a plus une dimension politique dans le troisième dialogue. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Et il y a toute une partie après dont j'aimerais vraiment que vous nous en parliez un peu longuement. On a le temps, Lily. Hein. On a bien 5 minutes pour en parler. Donc prenez votre temps, mais de l'utilisation justement du langage comme discrimination. C'est-à-dire que qui ne domine, qui ne n'utilise pas bien le langage, l'orthographe, la conjugaison, c'est presque une lutte de classe.
Oui, en tout cas, j'ai pu vraiment m'en rendre compte à l'école déjà, et puis aussi dans le milieu. Moi, j'ai toujours été entourée de zéro faute, je les appelle les zéro fautes. Tous les gens... voilà, mes amis, etc. C'était pas du tout quelque chose que je voulais, mais il s'est avéré que voilà, c'est des gens qui font pas de fautes d'orthographe et qui sont très doués, etc., etc. Et moi, bien sûr, je suis quelqu'un qui fait des fautes, qui a toujours fait des fautes d'orthographe et j'ai été en difficulté dans ce système. Et je sais pas ce que vous voulez que je dise par rapport à ça, tellement pour moi. Le langage est un outil de destruction.
Voilà, quand vous dites des choses fortes et le langage calque, il est à la botte de cette saloperie, l'instrument du pouvoir. Il donne le cadre d'exécution. Je parle du langage, pas des mots.
Bien sûr.
Vous savez très bien la différence que je fais entre les deux. Le langage trempe à la racine dans le bourbier d'installation. C'est bon aussi de temps en temps quand vous vous mettez en colère. Moi, j'aime bien cette dimension-là chez vous.
Moi, merci de me le dire parce que j'ai peur d'une certaine forme de violence chez moi qui est là, forcément, qui existe. Et c'est la violence de... C'est une violence, il n'y a pas que cette violence. J'essaye de la remplacer au maximum par de l'amour, mais parfois c'est impossible.
Il y a des moments où c'est bon aussi. On va quand même dans une société... Bon, moi je ne veux pas rentrer dans un propos politique. C'est pas un aréopage autour de moi, mais c'est vrai que je trouve qu'on est dans une société... On parlait de la souffrance.
Oui.
Où quasiment, si tu dis ta souffrance, c'est un peu obscène de dire sa souffrance. Mm-hmm. Ou quand tu dis ta colère, ça n'a pas beaucoup de tenue de laisser aller à la colère. Il y a des fois, je me rappelle du débat avec Ségolène Royal où Sarkozy lui dit « Mais madame, tenez-vous un peu. » En plus, quand une femme est colérique, elle est vite hystérique. Hein, mais mince, pour ne pas dire merde, on peut le dire, mais merde, il y a des fois où la colère, elle est saine. Quoi. Il faut la dire, il faut l'exprimer.
Ah non, mais je suis totalement de ce côté-là, mais je ne suis pas dupe. non plus. C'est-à-dire que vous savez que lorsque la colère éclate, au bout du compte, on peut la supporter dans un, si on la met en scène dans un film, c'est bon dans l'art, mis en scène, etc. Et à ce moment-là, ce sera waouh. On aime les voyous, les gens, etc. dans les films. Dans la vie, on les interne. C'est juste ça. Et moi, ce que j'ai vu, voilà, c'est que j'ai pas rencontré ce que j'appelle, vous voyez, on voit les poètes un petit peu. Non, c'est des gens qui sont très sages, qui se tiennent très bien, très cultivés.
Pas tous, hein, Rimbaud était pas sage.
Mais mais je vous parle pas de ça.
Ouais.
Non, je vous parle pas de lui.
Oui, justement.
Ah non, justement. Non,
justement
parce que là,
pas.
Non, mais c'est justement pas ce que je dis.
Ouais.
Moi, je pensais qu'un poète, c'était ça. Mais je vous parle de la réalité, là.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, bien sûr qu'il s'agit d'exprimer ce que l'on sent. Et bien sûr aussi que, et c'est pour ça que j'ai aussi ce livre, je me suis dit que j'allais aller au bout de l'écrire, c'est que là, on est dans un moment très important, on est en train de choisir, c'est le choix peut-être le plus important, un des choix les plus importants que l'homme est en train de faire, ce choix est presque fait entre parler et communiquer.
Mmh.
Le choix est presque fait. Et donc, d'une certaine façon, je décide de publier avec Philippe Bourret ce dialogue au cas où. Il y aurait... Voilà.
Et quand je dis qu'il y a quand même un engagement politique dans ce troisième dialogue, par exemple, quand vous dites, et en plus, j'ai cru comprendre, et ça m'a sidéré, donc j'ai cru comprendre que l'orthographe naîtrait de la volonté de stigmatiser une partie, ça vous le considérez dans un... sur quelqu'un qui fait des conférences sur l'histoire de l'éducation.
Oui, j'ai entendu ça.
Que l'orthographe naîtrait de la volonté de stigmatiser une partie de la population et de créer une différence pénalisante entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et pour illustrer ça, vous parlez de souvenirs d'enfance où vous ressentiez de façon extrêmement violente le fait qu'on vous impose de mettre la virgule là et pas là, de vous expliquer que ça c'était comme ça et pas autrement, et que ça pour vous c'était violent même.
C'était d'une violence extrême. Parce que pour moi, justement, ce passage sur la virgule, pour moi, justement, n'a jamais été un signe sur le papier. Ce qu'elle est, pour la plupart des gens, un signe sur le papier. Pour moi, c'est un souffle dans le corps. Donc, vous imaginez combien de voix coupées si je suis certainement pas la seule enfant à avoir cet accès différent au langage. Vous voyez ? Donc, si... Moi, ce que je comprends au fur et à mesure des années, etc., c'est que apparemment, la plupart des gens qui parlent du corps, ils parlent de quoi ? Parce que apparemment, cette virgule, elle est sur le papier seulement. Mmh. Parce que quand elle est dans le corps, c'est d'une violence extrême. Quand on vous dit, elle est là où tu respires, tu la mets quand tu respires pour t'arrêter et que vous n'arrivez jamais à la mettre à l'endroit où la maîtresse dit. Et ce que je dis, c'est que je n'ai jamais pu mettre une virgule à l'endroit de la langue. Et je me suis libérée en créant. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. C'est simplement que j'ai décrété que je mettais la virgule là où je la sentais. Et ça, apparemment, ça s'appelle écrire.
Mm-hmm.
Mais des fois, j'en veux dire, mais merde, quoi.
À vous aussi, vous.
Tout ça pour ça, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Parce que, dès le départ, j'écris. Dès le départ, un enfant. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Donc, tout simplement, souligner que, tout de suite, c'est fait.
Dans cette partie aussi, je vous dis qu'il est quand même plus engagée, vous exprimez sur... c'est pas qu'elle est plus engagée, c'est qu'elle est sur des débats peut-être plus... oui, plus politiques et moins intimes qu'au début. Ou,
oui.
Hein, moins sur votre cheminement personnel.
J'ai
mais
voulu
plus...
parler dans un premier temps de quelque chose que j'ai totalement endossé. Parce que ça, il faut oser dire je quand on parle de quelque chose d'aussi différent ou radical. en sachant, parce que je le fais, parce que j'espère et je sais aussi que je ne suis pas la seule, pour tous ceux justement qui ont la voix, cette maltraitance de l'écrit et qui ont une voix coupée. Voilà. Mais par contre, rien n'est personnel. L'oralité traverse.
Et dernier, enfin, autre combat dans cette partie-là, ou pas, c'est pas un combat, mais autre indignation, autre colère, saine colère, c'est quand vous dites « je ne ferai jamais de l'art une victime du marché ».
Oui.
Et Philippe vous répond « comment ça une victime ? Si on parle de poète et d'artiste, on parle de ceux, entre autres, qui résistent s'il y a quelque chose de l'ordre de la marchandise qui menace la vie. C'est d'ailleurs cette partie-là qui donne son titre au troisième.
Oui,
le poète n'est pas un milliardaire comme les autres.
Oui, c'est ce qu'on pense, c'est ouais. ce qu'on aimerait, c'est ce qu'il faudrait. Et donc c'est pour ça que je vais jusqu'au bout de ce qui n'est jamais dit, tout ce qui est effleuré comme ça, tout ce qui a l'air d'eux. Et c'est... Parce qu'il me semble qu'il faut justement laver ce linge totalement sale, ce sale linge qui nous appartient à tous ensemble. C'est peut-être la seule chose qu'il faut qu'on fasse ensemble réellement, c'est laver ce sale linge-là.
D'autant plus.
Donc
que
je le fais, le fais, moi, de mon côté.
D'autant plus que le poète n'a jamais été celui qui veut être malheureux ou crever de faim. La misère n'a jamais été une revendication, pas plus que la souffrance, seulement la conséquence d'une résistance. C'est fort, ça, comme idée.
Oui, la souffrance, ça n'est que la conséquence d'une résistance à l'oppression. C'est absolument pas un choix de vie. Le poète, il veut pas souffrir. La souffrance n'est pas la mesure du talent. Non, elle est la mesure de la résistance à l'oppression. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire parce que j'en ai vraiment marre de ces gens de ces gens qui sont pas que des gens, qui sont aussi des savants, des docteurs, dire que si on souffre, c'est qu'on le veut. C'est qu'on fait en sorte de souffrir. Il y a certaines résistances, certains combats qui vous mettent hors jeu, qui rendent la vie très compliquée.
Après, c'est pour ça que vous aimez les tourmenter. Alors, on parlait des monstres un petit peu avant.
J'aime pas les tourmenter.
Ils peuvent être aimés, hein.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que mon critère, c'est pas si t'es tourmenté, alors c'est bon.
Oui, oui.
Non, c'est que heureusement qu'il y en a qui prennent le risque d'exister.
Mais ils se heurtent à quoi? Par exemple, on parlait de Valérie Valère qui s'est heurtée. Je sais que quand une des premières fois on s'est rencontrés, vous m'avez dit votre admiration pour Antonin Artaud. Reprenez-moi au contraire.
Et justement, je n'ai pas voulu parler. Artaud n'apparaît pas ou simplement juste comme ça parce que je n'aime pas utiliser la blessure des autres mais simplement parce que dans ma vie, il a une place particulière. Je ne connaissais pas Artaud, pas lui, etc. J'étais très mal et un jour. Par hasard, je tombe sur le dos d'une couverture, le dos, et je lis quelque chose qui est exactement ce que je suis en train de vivre. Et c'était une couverture d'un livre d'Artaud, etc. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec cette personne. Et c'est comme ça que je me suis sentie un peu avec un ami. Mais aucune admiration, aucune fascination, simplement de l'amitié. Mmh. Voilà.
C'est quoi, c'est une espèce de fraternité que vous retrouvez
C'est pour moi ce qu'il dit, ce qu'il vit est pas compliqué, quoi. Mmh. Vous voyez, c'est quelque chose que j'éprouve, que j'ai tout de suite. Donc c'est quelque chose qui m'a permis de. Parce qu'autour de moi, on ne me donnait pas d'explication à justement cette difficulté à avoir un corps et un esprit.
Et chez Valérie Valère, par exemple, elle avait quel trouble, Valérie Valère?
Anorexie mentale.
Ah, c'est ça.
En tout cas, c'était le symptôme.
Oui.
Mais c'est que des symptômes, ça, parce que son trouble, c'était de ne pas supporter certainement l'hypocrisie du monde, tout simplement. Et puis, ça prend telle ou telle forme que la psychanalyse ou autre discipline étudie. Mais c'est surtout quelqu'un qui n'a pas supporté certaines choses et qui en est morte. Et ces choses qu'elle n'a pas supportées sont insupportables. Mmh. C'est pas elle qui est faible. C'est simplement que ces choses-là sont inacceptables.
Vous l'avez lu à la sortie, Le Pavillon des Enfants Fous, quand c'est sorti, ou vous l'avez lu après ?
Non, j'ai lu ça après. Je suis tombée par hasard parce que j'avais pas justement ce réflexe de lecture, mais le hasard, des circonstances font que, et puis sans rentrer dans les détails, il y a bien d'autres choses dont là, je ne vais pas parler, mais Valérie Valère fait partie de ces êtres oubliés qui m'ont fait croire en l'écriture, qui font que pour moi l'écriture, ça ne peut pas être une contrainte formelle.
Parce qu'on dit, quand on va chercher des choses sur elle, que l'écriture, moi je m'en rappelle mal, mais que l'écriture en elle-même est une très belle écriture en plus.
Bien sûr. Mmh.
Qu'il y a des mots, une façon de tordre le langage qui lui est tout à fait personnel.
Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui est passé très vite. C'est quelqu'un d'immense qui est passé très vite et qui est resté minuscule. Et que fait partie de ces personnes que j'aime. Et souvent, les personnes que j'aime ne sont pas choisies. Ça m'énerve beaucoup. Et souvent, celles que j'aime pas sont choisies. Et ça m'énerve encore plus. Et Valérie Valère est une personne que j'aime et qui n'a pas été... Et donc, simplement...
Je crois qu'elle a été aussi prise dans une espèce de maelstrom. Ça a été un épiphénomène à un moment. Et le monde des médias, c'est déjà, s'est intéressé d'elle à ce moment-là, et puis sans comprendre vraiment, en faisant alors là presque qu'une bête de foire, quoi. Voilà,
un peu. Mais en tout cas, voilà, un peu de lumière. J'aime bien mettre parfois la lumière là où elle reste pas longtemps. Voilà.
Je viens de vivre quelque chose de magnifique aujourd'hui. On va se reséparer. Généralement, à la fin, on se sépare. Là, on va se reséparer.
On se re-re.
Enfin, en tout cas, j'ai passé un moment formidable qu'on a eu la chance de prolonger autour de Un mot sans l'autre, de Lily Frick et Philippe Bourret, dans un dialogue de Philippe Bourret. Un dialogue avec Philippe Bourret. C'est vrai que j'aimerais beaucoup une rencontre avec les deux pour poser des questions.
Je suis sûre qu'il viendra.
Reparler peut-être en fin de deuxième partie de la maison d'édition, Lily, si vous voulez bien.
Oui, elle est essentiellement sur le net et elle fait un travail vraiment merveilleux puisqu'elle édite beaucoup de voix difficiles en Algérie, plein de... Il y a plein de littérature algérienne.
Du mal à se faire entendre.
Voilà, c'est ça. Et je ne connais pas tout le catalogue, etc. Mais je sais que c'est un travail qui est un travail de fond, de minerai de fond et d'extraction de fond. Et que je suis très fière qu'Un mot sans l'autre soit dans la collection Poésie sur tous les fronts.
Et je rappelle que vous pouvez aller chercher Tu t'appelles comment sur le net, donc vous tapez Tu t'appelles comment, donc sur cette œuvre réalisée en collaboration avec Brieux-Lemeur, voilà,
qui est toujours à Berlin.
Voilà, si vous êtes attiré au bout de ces deux heures de rencontre par la personnalité de Lily, allez voir Tu t'appelles comment, allez voir aussi sa bibliographie qui commence avec Bleu. Ciel non compris, qui continue à la rumeur lubre avec Tôle froissée, Carnet sans bord, La vie monstre à la boucherie littéraire. Et puis, si vous entrez sur votre moteur de recherche, le nom de Lily Frick, vous aurez plein de choses sur elle. C'est une personnalité formidable. Et je vais reprendre les mots qui ont ouvert la première heure avec Lily Frick. Être avec Lily Frick, c'est une expérience inédite.
Et être avec vous, c'est bien agréable.
Merci beaucoup Lily, on se quitte avec votre voix et justement avec un extrait de Tu t'appelles comment, je crois.
Oui, le titre qui a donné son titre à l'album. Donc la composition est de Brieux Lemeur.
Merci beaucoup Lily Frick, je suis ravie de ce moment.
Merci à vous Nathalie Pouli, moi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
T'en as pas des questions du mois prochain, mais...
Cassé, reconstruit.
Savoir exactement. Ouais, c'est bon. Lily, comment? Ça dépend des jours, du bleu qu'il fait. C'est quoi ces conneries? Ça vient du regard. En mauvais état, le regard. Dans l'état des choses. Lily? Oui. C'est toi qui écris? Non. Alors c'est moi. Non plus. Alors c'est qui?
Tu m'entends là?
Personne en particulier. Quelqu'un en général.
Tu t'appelles comment?
Quand tu dis je, alors tu dis quoi? Non plus. Je, ça dit pas. Je, ça fait dire. Je. Non plus. Quand tu dis je, alors tu dis quoi? Je, ça dit pas. Je, ça fait dire. Et des questions.
Quoi?
T'en as pas des questions, tu m'en poses jamais. Non, j'en ai pas des questions. Pas qui sauve. Deux expressions. Huit mots, exactement.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.